Yagab, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Édouard Dupenoit.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Appel sur l'actualité, c'est jusqu'à 9h en temps universel pour parler ce matin de la première année de guerre révolue au Soudan, de ses conséquences sur votre vie quotidienne, des attentes que vous avez, que vous exprimez aussi sur les dirigeants africains, sur les dirigeants internationaux, pour qu'ils arrivent peut-être à faire taire les armes. De tout cela, on parle dans une demi-heure. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vous nous écrivez aussi sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Mais ce sont d'abord vos questions à la rédaction de Radio France Internationale. La première d'entre elles nous vient de la capitale togolaise. Abel nous appelle de Lomé. Bonjour Abel et soyez le bienvenu sur l'antenne.
Bonjour, monsieur Edouard.
On va faire parler la poudre avec vous, Abel. Vous aviez une question sur l'usine que le président français Emmanuel Macron a visitée la semaine dernière. On vous écoute.
Effectivement, Emmanuel Macron a visité une usine de poudre pour illustrer le passage du pays à une économie de guerre. À ce sujet, j'ai deux questions. La première, concrètement, quelles mesures vont découler de cette économie de guerre?
Alors, on va prendre vos questions dans l'ordre. Quelles mesures vont d'abord découler, premièrement, de cette économie de guerre? C'est Nicolas Feldman, journaliste au service économie de RFI, qui vous répond. Bonjour Nicolas.
Bonjour Edouard et bonjour Abel.
Et donc, première question, première réponse. Concrètement, quelles mesures vont découler de cette fameuse économie de guerre?
Alors déjà peut-être avant de répondre à la question, il faut peut-être s'arrêter sur ce terme d'économie de guerre et sur sa définition. L'économie de guerre, c'est un concept en fait qui date de la Première Guerre mondiale et qu'on entendait à l'époque comme le fait de mobiliser toutes les ressources économiques de la nation au service de l'effort de guerre. Ça voudrait dire par exemple qu'on mobiliserait les ressources agricoles, les ressources industrielles, les hommes et les femmes au service de la guerre. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on est loin de ce statut-là. Ce terme d'économie de guerre, il a en fait évolué avec le temps. Emmanuel Macron, il l'emploie pour la première fois à l'été 2022. On est 4 mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Et c'est un moment où l'Union européenne, où la France, décide de soutenir militairement l'Ukraine. Sauf qu'à ce moment-là, les industries de l'armement, à l'époque, ne sont pas du tout prêtes à alimenter les besoins très nombreux en Ukraine, des besoins que ce soit en munitions ou en armes. Je vous donne un exemple très concret. On estime par exemple que les Ukrainiens tirent tous les jours 6000 obus. Eh bien, ces 6000 obus, il faut pouvoir les produire, il faut les assembler, ça demande des chaînes de production, ça demande de la main-d'œuvre. Et donc, les industries de défense, à l'époque, elles n'étaient pas prêtes à répondre à cette demande, à ce flux. Donc, quand Emmanuel Macron parle d'économie de guerre, c'est ça. Il demande à ce qu'on produise plus et plus vite, d'abord produire pour la France, pour ses propres besoins, mais aussi produire pour ses partenaires, comme c'est le cas avec l'Ukraine.
Et justement, comme c'était le cas aussi avec cette visite de l'usine de Renko, c'était dans le centre-ouest de la France, il visitait en fait des lignes de production déjà existantes, et il a aussi symboliquement posé la première pierre d'une future usine qui doit être prête l'année prochaine, et qui doit fabriquer de la poudre explosive qui servirait notamment à propulser ces fameux obus dont vous nous parliez, Nicolas. Donc, produire plus et plus vite, mais concrètement, et pour répondre à la question d'Abel, comment ça se traduit?
Alors, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Il y a d'abord eu un décret qui date du 29 mars et qui ouvre la voie aux réquisitions. La réquisition, c'est quoi? C'est en fait un dispositif qui permet à l'État de mettre la main sur les personnels, sur les stocks ou encore sur les capacités de production des entreprises. Le cadre juridique, il a été planté, mais pour le moment, aucune industrie de défense n'a été réquisitionnée. Il y a une autre piste évoquée, c'est l'idée d'imposer à certains industriels un niveau minimal de stock ou bien qu'ils accordent en fait la priorité à la commande militaire face aux besoins civils. Là non plus, il n'y a rien eu de concret. En fait, cette visite d'Emmanuel Macron à Bergerac, il faut plutôt la voir comme une séquence politique, une séquence de communication. Pour l'Élysée, ce site de Bergerac, c'est un peu un exemple à suivre. C'est à la base une poudrerie quasi centenaire. Elle a été démantelée en 2007 parce que les commandes n'étaient pas suffisantes. Et aujourd'hui, à la faveur de la guerre en Ukraine, si on peut dire ça, les carnets de commandes sont pleins. Et donc, à l'occasion de cette visite, Emmanuel Macron, il a convoqué tous les grands noms de l'industrie aux côtés de Rhinko. Il y avait Dassault, il y avait Naval Group, il y avait Nexter. Et le but de cette visite, c'était, comme le dit l'Élysée, de mettre un coup de pression aux industriels pour les inciter donc à suivre l'exemple de Rhinko.
Abel, vous aviez une autre question parce que vous avez suivi aussi récemment des annonces concernant les chiffres de l'économie française.
Effectivement, quelles pourraient être les répercussions de cette politique alors que la France est en déficit ?
Question pertinente, s'il en est, Nicolas Feldman, quelles peuvent être les répercussions de cette fameuse économie de guerre ?
Bah c'est vrai qu'aujourd'hui, les derniers chiffres sur le déficit ne sont pas bons pour l'année 2024. Le gouvernement a revu ses prévisions à la hausse. Le déficit, il sera de 5,1% au lieu des 4,4% attendus. Et donc là, on entre dans une période de coupe budgétaire. Le gouvernement dit qu'il va falloir trouver 10 milliards d'euros d'économies qui s'ajoutent à 10 milliards d'euros déjà annoncés. Ces coupes, pour le moment, elles concernent la culture, l'enseignement supérieur, l'écologie. Mais pour le moment, elles ont épargné le secteur de la défense. Et c'est peut-être ça, l'économie de guerre. C'est justement, même en période de coupe budgétaire, en période d'austérité, de préserver et de sanctuariser en quelque sorte le budget de la défense.
C'était d'ailleurs que disait aussi le président français. Une économie qui serait bénéfique pour la France parce qu'elle créerait de l'emploi et qu'elle assurerait la réindustrialisation. Nicolas Feldman, merci d'avoir répondu aux questions d'Abel. Et Abel, merci de nous avoir appelé de Lomé, où il est 8h16. On rejoint tout de suite Moundou au Tchad, où Adrien nous attend. Bonjour Adrien.
Bonjour Edouard, bonjour à tous les auditeurs de RFI, sans oublier les membres du club RFI de Moundou.
Que l'on embrasse évidemment affectueusement. Vous avez une question footballistique et ça concerne la reine des compétitions.
Edouard, ce soir, le Paris Saint-Germain va affronter Barcelone en match retour de la Ligue des Champions après avoir encaissé une défaite 3-2. Je me pose la question, quelles seront les stratégies ou les moyens que le club peut adopter pour se qualifier ce soir ?
Radio France Internationale a un envoyé spécial sur place, Cédric De Oliveira, qui est en direct avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour Edouard, bonjour Moundou.
Est-ce que les Parisiens ont ce soir la possibilité d'inverser la tendance ?
Ouais, je vais commencer par un gros poncif, hein, le plus gros des poncifs en foot, mais tout est possible. En tout cas, c'est ce que a dit Luis Enrique hier, l'entraîneur en conférence de presse. C'est le discours des derniers jours au PSG. On a vu hein, des retournements de situation plus surprenants que celui de remonter un but de retard. Paris en sait quelque chose. Il avait subi ici même à Barcelone la fameuse remontada en 2017 après avoir remporté le match aller 4-0 et perdu 6-1 au retour. En tout cas, Edouard, il faudra que le PSG fasse un autre match que mercredi au Parc des où il avait été largement dominé. Il faudra être plus solide. On a vu une défense qui a beaucoup souffert, mise à mal par la justesse technique des attaquants catalans. Et puis ce serait bien aussi que le gardien de but Gianluigi Donnarumma, qui n'a pas été impérial comme souvent sa dernière saison en Ligue des Champions, retrouve un petit peu le niveau justement de cette compétition européenne. Alors comment retrouver cette solidité ? La première chose, c'est que Luis Enrique va récupérer son titulaire au poste d'arrière droit, le Marocain Achraf Hakimi, qui était suspendu au match aller, et que ça devrait permettre eh bien, de revoir des joueurs à leur poste, notamment Marquinhos en défense centrale, et laisser le jeune Brésilien Peraldo sur le banc, lui qui avait beaucoup souffert. On devrait aussi retrouver Warren Zaïre-Emery, le tout jeune milieu de terrain devenu indispensable de l'entrejeu. Enfin, il faudra aussi être plus efficace. Paris qui a marqué 2 buts dans l'euphorie au Parc la semaine dernière. Mais les attaquants ont été trop discrets à l'image de Kylian Mbappé qui a sans doute réalisé l'une de ses plus mauvaises prestations de la saison.
La deuxième partie de votre question, Adrien, concerne justement Kylian Mbappé. On vous écoute.
Voilà, aujourd'hui, Kylian Mbappé est considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde. Alors, Mbappé pourrait-il faire la différence alors qu'il est passé à côté du match aller ?
Alors, sans prétendre qu'on puisse lire dans le marc de café, Cédric, oui, mais est-ce qu'on pourrait le voir ce soir à un autre niveau sur la pelouse barcelonaise ?
Mais pour répondre à Adrien, en tout cas, Kylian Mbappé, a raté son match, mais une qualification parisienne passera très probablement par une grande performance de sa star. Le PSG est dépendant de lui, encore plus cette saison. Hein, c'est sans doute le meilleur joueur du monde en ce moment, en tout cas, on va dire l'un des meilleurs. Il a marqué 39 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues, et à chaque grand rendez-vous ou presque, il a répondu présent. On l'a vu au tour précédent contre la Real Sociedad. En huitième de finale, il avait marqué à l'aller et au retour. C'est lui qui est capable de faire basculer ses matchs. même si c'est vrai que depuis quelques semaines, il est un peu moins tranchant. On rappelle qu'il a annoncé en février qu'il partait à la fin de la saison, très probablement pour s'engager avec le Real Madrid. Depuis, c'est un petit peu plus compliqué. Les relations avec Luis Enrique sont tendues. Il l'a mis sur le banc. Depuis, Mbappé brille un peu moins, un peu plus par fulgurance. On a l'impression que parfois, il manque de rythme. Et puis, peut-être que cette situation le tracasse aussi. Il n'est pas infaillible, Kylian Mbappé. Il avait répondu il y a quelques semaines à une question en conférence de presse en disant qu'il n'était pas perturbé, que ses performances n'étaient pas impactées. Mais il faut reconnaître que depuis, il marque un peu le pas. Un seul but en 4 matchs avec Paris. L'une des grandes forces quand même, Edouard Adrien, c'est de répondre présent dans l'adversité pour Kylian Mbappé. La dernière fois qu'il est venu à Barcelone, il y a 3 ans, il avait inscrit un triplé. C'était dans l'ancien Camp Nou, qui est en reconstruction. Cette fois, Paris ira jouer à Montjuïc, au stade olympique, où joue le Barça. En attendant, en tout cas, on espère beaucoup de sa star côté parisien pour se qualifier pour le dernier carré de cette Ligue des Champions.
Le stade de Montjuïc, où l'on vous retrouvera en direct pour suivre ce match en intégralité sur nos antennes, Cédric De Oliveira. À partir de 19h TU, un peu avant, avec Babacar Diarra, notre consultant Ibrahima Traoré en studio. Adrien, merci de nous avoir appelé. Est-ce que je peux vous demander un pronostic pour ce soir ?
Bon, 2 buts partout. Barça se qualifie.
Bon, je souhaite pour les supporters du Paris Saint-Germain que votre pronostic soit faux. En tout cas, je vous remercie de nous avoir appelé. Adrien, on appelle maintenant Ibrahim Boy, qui nous appelle de Tétouan. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu sur l'antenne.
Bonjour monsieur Edouard et bonjour à tous.
Vous avez une question sur cette attaque dont on a beaucoup parlé sur RFI ces derniers jours. L'Iran qui avait lancé dans la nuit de samedi à dimanche plus de 300 missiles contre l'État hébreu en réponse à l'attaque contre son consulat. On vous écoute.
Effectivement. Et l'Iran a lancé dans la nuit de samedi à dimanche plus de 300 missiles contre Israël et en réponse à l'attaque contre son consulat à Damas. Donc, les questions sont les suivantes. L'Iran prévoit-elle de continuer ses opérations ? Et la deuxième question est de savoir, est-ce qu'on doit craindre un embrasement dans la région ?
Pour répondre à vos deux questions, nous avons joint Héloïse Fayet qui nous a donné un peu de son temps ce matin. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci de répondre à la question d'Ibrahim Boy. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Que peut-on tenter de répondre ce matin à cette question ? Est-ce que d'abord l'Iran prévoit de continuer ses opérations ? Le ton est resté très belliqueux entre Israël et l'Iran ces dernières heures en tout cas.
Oui, le risque d'escalade est évidemment présent, mais actuellement la maîtrise de l'escalade elle est dans le camp d'Israël. L'Iran a bien signalé qu'ils avaient de leur côté clos l'incident. Ils considèrent que leur attaque dans la nuit du 13 au 14 avril est la réponse à l'attaque israélienne sur le consulat et qu'ils n'attaqueront pas à nouveau Israël, sauf si, évidemment, Israël décide de continuer l'escalade en répondant à son tour à l'attaque israélienne, l'attaque iranienne de ce week-end. On ne sait pas à quel point les États-Unis vont pouvoir faire pression sur Israël afin que la réponse israélienne ne soit pas trop large.
Alors pour le premier volet, en tout cas iranien, vous le rappeliez, l'ambassadeur aux Nations Unies qui considère que cette affaire est close. Beaucoup de fuites, notamment dans la presse américaine, ont laissé entendre que le président américain Joe Biden avait fait pression sur le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour qu'il ne déclenche pas dans la foulée une riposte d'ampleur. Est-ce qu'on peut encore craindre cette riposte quelques jours plus tard ? Quelle forme est-ce qu'elle peut prendre ? Et pour répondre à la deuxième partie de la question de notre auditeur, est-ce qu'on doit craindre un embrasement généralisé de la région ?
Alors les Israéliens semblent déterminés à répondre, en tout cas c'est le point de vue qui est exprimé par l'armée israélienne et par le gouvernement Netanyahou, mais il semble encore y avoir des dissensions sur la façon de répondre. Donc pour l'instant, on peut quand même imaginer quelques pistes, par exemple un retour aux actions israéliennes plus traditionnelles, si j'ose dire, de ciblage des alliés de l'Iran dans la région, donc les fameux groupes non étatiques comme le Hezbollah, certaines milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen. Et donc on peut imaginer des frappes israéliennes d'envergure sur des bases militaires appartenant à ces groupes non étatiques. Donc ça c'est une option. Sinon effectivement peut-être des frappes israéliennes directement sur le territoire iranien, mais là c'est quelque chose qui serait extrêmement escalatoire. Dans tous les cas, il y a toujours un risque évidemment d'embrasement de la région lorsqu'on fait face à deux acteurs qui ne se parlent pas et qui ignorent leur ligne rouge mutuelle. Et donc, en fait, le risque le plus important, c'est celui de l'escalade incontrôlée avec des acteurs en fait, qui se sentent obligés de riposter à chaque attaque de l'autre.
Dans la situation actuelle, est-ce qu'il vous semble possible que Israël mène une attaque peut-être aérienne d'ampleur directement sur le territoire iranien, attaque qui, selon toute vraisemblance, ne recevrait aucun soutien de la part de son allié traditionnel que sont les États-Unis ?
Oui, alors du coup, en fait, ça semble assez peu probable, étant donné que Israël n'a pas réellement les capacités militaires de conduire une attaque aérienne de grande ampleur. Il peut y avoir éventuellement des frappes très ciblées, très discrètes, mais quelque chose qui enverrait un message qui serait visible serait extrêmement difficile à réaliser sans un soutien américain en termes de livraison des bombes qui seraient capables de faire assez de dégâts, de ravitaillement en vol, de partage de renseignements sur la situation au sol, de suppression de ce qu'on appelle la défense sol-air iranienne. Et donc en réalité, un raid israélien de grande ampleur sur le territoire iranien a plus de chances d'échouer que d'envoyer un message de dissuasion.
D'où cette hypothèse qui vous semble plus plausible de frappe contre des groupes non étatiques traditionnellement alliés de l'Iran dans la région. Héloïse Fayet, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions de notre auditeur Ibrahim Boy qui nous appelait de Tétouan. Je rappelle que vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. La dernière question de cette première partie nous vient de Douala, au Cameroun, où c'est Jean-Bernard qui nous appelle. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu sur l'antenne.
Bonjour Edouard.
On va parler d'une vente aux enchères qui aurait dû se tenir à Caen, qui aurait dû commencer hier, qui a été annulée à la dernière minute. On écoute votre question.
D'accord, il y en a trois en tout cas. La vente aux enchères de près de 400 ouvrages de Léopold Sédar Senghor a été suspendue. Si l'État sénégalais les achète, quelle pourrait être leur destination future ?
On va peut-être commencer par cette première partie de la question. C'est le professeur Mouhamadou Moustapha Sow qui va vous répondre. Bonjour monsieur, merci de prendre quelques minutes sur RFI.
Bonjour.
Vous êtes historien et professeur à l'UQAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il était question, effectivement, de vendre plusieurs centaines d'ouvrages ayant appartenu au premier président du Sénégal indépendant, Léopold Sédar Senghor. Si l'État sénégalais les achète, puisque cela semble être la piste envisagée actuellement, quelle pourrait être la destination future de ces ouvrages ?
Voilà, merci à vous et merci à vos auditeurs. Il faut dire qu'à l'état actuel, puisque le Sénégal ne dispose pas encore d'une bibliothèque nationale, je pense qu'aujourd'hui, c'est la bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui est vraiment bien indiqué pour abriter la bibliothèque de Léopold Sédar Senghor. Il faut dire que déjà celle-ci, c'est-à-dire la bibliothèque universitaire de Dakar, abrite vraiment des ouvrages d'écrivains comme René Maran, comme d'autres chercheurs comme Lilian Kesselo, et à l'état actuel même, en étroite collaboration avec le groupe de recherche Senghor, nous avons déjà un fonds Léopold Sédar Senghor qui est logé à la bibliothèque universitaire de Dakar.
Justement, je précise, puisque vous commenciez à parler des titres de ces ouvrages, on trouvait dans ces livres qui auraient dû être vendus aux enchères un exemplaire du discours sur le colonialisme dédicacé par Aimé Césaire, ainsi parla l'oncle de l'écrivain haïtien Jean-Prince Mars. Je prends dans ma voix la deuxième question de Jean-Bernard parce que le temps presse un peu et j'en suis désolé. Pourquoi l'État sénégalais ne s'était pas manifesté avant ? Pourquoi est-ce qu'on a cru presque in extremis que cette vente aurait lieu ?
Oui, non, en fait, il faut dire que dans un premier temps, l'État sénégalais s'était manifesté quand il s'est agi de la vente des objets d'art, des bijoux et autres
cadeaux
diplomatiques.
Au mois d'octobre.
C'était au mois d'octobre 2023. Et en raison aussi du contexte politique récent, les nouvelles autorités étaient en cours d'installation. Et c'est ce qui fait qu'avec notre groupe de recherche, dès que les autorités sénégalaises les nouvelles autorités ont été informées, elles ont vraiment travaillé d'arrache-pied le président de la République.
Il semble que ce soit plus le calendrier politique avec l'élection et l'installation des nouvelles autorités qui ait expliqué peut-être ce retard à l'allumage. Merci beaucoup, professeur Mouhamadou Moustapha Sow, d'avoir répondu à nos questions.